Les personnalités contemporaines sont pour l'instant individualistes et égocentriques. Les études historiques nous montrent que le phénomène n'est pas nouveau, puisqu'il fut déjà repéré à d'autres époques. Mais il en est ainsi aujourd'hui. Beaucoup n'ont plus le sens du lien social, de l'intérêt général et de l'histoire. Dans ce contexte de repli sur soi et de valorisation du ressenti individuel, un narcissisme exacerbé prend le pouvoir et morcelle les personnalités. La sexualité subit l'expansion du narcissisme à l'heure où elle est davantage présentée comme un jeu de tendances quasi égalitaire. Hétérosexualité, bisexualité, homosexualité, travestisme, transsexualité, échangisme, voyeurisme, exhibitionnisme, sadomasochisme, etc., qu'il faut vivre au nom des bons sentiments. Ainsi, la sexualité ne serait plus fondée sur les deux seules identités sexuelles qui existent et que je rappelle, celle de l'homme et celle de la femme, source de l'altérité et de l'ouverture. Cette vision éclatée de la sexualité fossilise le conflit entre les tendances ou les orientations et les deux identités sexuelles et influence la représentation sociale du lien à l'autre et à la société. Le règne de Narcisse impose son ordre au nom de l'égalité, en détournant cette valeur de sa signification, afin de justifier l'individualisme des tendances sexuelles régnantes. L'expression sexuelle est également exhibée et promue à travers des pratiques recherchées pour elles-mêmes, plus que comme une modalité de la relation humaine. Les changements des thèmes abordés lors des cours d'éducation sexuelle dispensés aux enfants et aux adolescents en sont le reflet. D'abord centrée sur l'initiation à la contraception, puis à l'avortement, l'éducation sexuelle est passée ensuite à un enseignement axé sur les actes sexuels et les maladies sexuellement transmissibles pour, à présent, être davantage orientée sur les agressions sexuelles avec la volonté de les punir plus gravement que les crimes de sang. Comment ne pas voir qu'à travers tous ces détournements du sens de la sexualité, véhiculés par une idéologie d'État dans les écoles, nous préparons le puritanisme de demain chez les jeunes générations? Je posais déjà cette question, qui ne cesse de s'accentuer, dans « Le sexe oublié ». Le sentiment de peur et la nécessité de se protéger sont devenus les fils rouges de l'éducation, au détriment de la qualité relationnelle. La morale sanitaire a supplanté la morale des valeurs de la vie, qui est la seule à affiner la conscience humaine et la qualité relationnelle des personnes. Cette morale sanitaire, qui ne veut pas culpabiliser, ouvre parfois la porte à toutes les attitudes perverses quand elle propose uniquement des techniques de protection plutôt que d'en appeler à la conscience responsable de chacun. De ce fait, elle légitime la plupart des comportements au lieu de les interroger. Elle renforce le modèle d'une sexualité éclatée en tendance et en pratique, et d'un corps explosé en morceaux et en autant de produits biologiques érotisés. Le spectacle de Yann Fabre, à Paris et au Festival d'Avignon 2005, en est une bonne illustration. Il tue l'esprit de l'homme en ramenant la condition humaine à n'être que du sang et au fait d'uriner et de déféquer, comme doivent le faire ses acteurs sur scène. Il est ainsi à l'unisson du chaos et du désordre de la société, là où certains s'imaginent que l'artiste invente du sens à l'existence. Nous sommes davantage dans la régression sadique anale, subventionnée par l'État à plus de 6 millions d'euros, que dans la création. Il est vrai que l'on nous annonce le retour des morts vivants et des zombies, en pleine pagaille des idéologies psychologisantes et du brouillage des références de base. Les zombies prospèrent sur les ruines des symboles qui favorisaient l'humanisation des hommes. Le rabattement sur les pulsions partielles érotisant le sang et la pisse, et sur l'indistinction sexuelle, prépare un virage infra-humain entretenu avec des doses d'images médiatiques les plus stéréotypées. Ainsi sommes-nous invités à vivre en nous inspirant des états premiers et dans la complaisance d'un corps identifié aux déchets biologiques, en deçà de son identité sexuelle. C'est bien en s'inspirant de l'indistinction sexuelle régnante et des tendances partielles recherchées pour elles-mêmes que le législateur risque de créer des lois relatives au couple et à la famille aux effets pathogènes sur la société. La loi encourage, de la sorte, le morcellement du lien social et la relation cynique aux autres. L'augmentation de la visibilité de situations affectives et de pratiques sexuelles souvent présentées comme de nouveaux modes de vie conduit certains à penser qu'il convient de les légitimer au plus vite. Ces comportements ne sont pas des nouveautés dans l'histoire. Ils ont toujours existé sans jamais être reconnus comme des références, et encore moins comme des états de vie. Néanmoins, une confusion s'installe progressivement, brouillant les repères en laissant croire que l'égalité entre les personnes implique nécessairement l'égalité des situations affectives et appelle, de fait, une validation sociale et un traitement juridique. Le sexe de Narcisse, un sexe en miroir, où l'autre est souvent instrumentalisé, nous impose insidieusement son pouvoir, en prenant la loi en otage. Le sexe et le sport, comme pratique d'affirmation de soi, ne sont-ils pas devenus les principaux objets de compensation des sociétés dépressives? L'intérêt du sport et l'accomplissement sexuel de chacun ne sont pas ici en question, bien au contraire. Mais la façon quasi puérile d'utiliser l'un et l'autre afin de libérer la société de son conditionnement délétère est le symptôme flagrant d'une absence de diagnostic de la situation et de projets collectifs qui répondent aux réels enjeux. La vie politique est réduite à des effets d'annonce et à la mise en valeur de phénomènes secondaires, voire marginaux, ou à des formules toutes faites. La positive attitude est ainsi devenue l'antidépresseur à la mode. Il suffit de constater, parfois avec une certaine lassitude face au matraquage affectif, ostentatoire et financier de la classe politico-médiatique, tout ce qui s'est fait pour la préparation des Jeux Olympiques de 2012 à Paris, avec les slogans perdants révélateurs d'un repli narcissique tel que « Paris a besoin des Jeux, Paris aime les Jeux », sur fond de nostalgie parisienne mis en scène par un film désuet de 6 millions d'euros. Le discours médiatique nous a obligés à penser que les Jeux nous ouvriraient un bel avenir. Les origines des fameuses valeurs de l'olympisme ne viennent pourtant pas que du simple sport, et jamais les Jeux n'ont permis à un pays de progresser socialement et économiquement. On peut se demander qui dirige, sous le règne de Narcisse, et qui fait perdre la société. La pensée réduite à des slogans affectifs? Le jeu pour faire parler de soi? Le sexe antidépresseur? Il est interdit de formuler ces questions et d'exprimer la moindre critique. Il en va de même avec une forme très problématique de la sexualité, l'homosexualité, qui ne devrait relever ni de la critique ni de la remise en question des comportements. Elle est devenue le nouveau tabou à la mode. Est-ce vraiment promettre un avenir radieux à la société que de lui imposer le mariage entre personnes de même sexe et leur accorder le droit d'adopter des enfants? Au nom de quelle cohérence, de quel esprit de fuite, de quelle démagogie, nous donnons-nous comme seuls objectifs le festif sans contenu, ni lien avec l'histoire, le sportif des apparences et la banalisation de formes de sexualité enfantine? Faut-il renouer avec le paganisme le plus primitif en proposant la religion des jeux et du sexe au bon peuple pour nous sortir de la crise? Le sexe mène-t-il le monde? On peut continuer à se poser la question quand on voit comment des phénomènes très particuliers, voire très contestables, sont présentés et exaltés par les médias comme de nouvelles références. Le vécu subjectif de chacun devrait nécessairement être une source de normes. Que se passe-t-il dans la société pour que les citoyens se laissent envahir passivement par le règne de Narcisse qui impose une représentation de la sexualité centrée sur soi, sur le même et le semblable, au détriment d'une sexualité altruiste et source de liens sociaux? L'image que se fait la société de la sexualité révèle le sens qu'elle accorde à l'autre, à l'enfant et au bien commun. Nous sommes invités actuellement à vivre dans le repli de Narcisse. Le règne du « moi-je », du « ressenti individuel » et d'une pseudo-invention de soi en sont les maîtres mots, parmi un certain nombre qui nourrissent l'imposture intellectuelle et toutes les attitudes perverses consistant à retourner le sens des choses. Comment, par exemple, peut-on affirmer qu'un duo de personnes de même sexe est semblable à un couple formé par un homme et une femme? Comment peut-on faire croire que la structure affective est identique alors qu'il s'agit d'un autre système relationnel d'où la différence est absente? J'ai déjà eu l'occasion d'écrire que la différence est fondatrice de l'humain.